Qu'y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non. Oui, on...
Bonjour et bienvenue dans Cinérama. Nous allons sonder des films sortis plutôt au mois d'octobre et même plus loin, Marine.
Oui, bien moi, il sera question de rêve, hein, avec notamment un film de la réalisatrice péruvienne Claudia Llosa, L'Attrape-Rêve, qui est sorti il y a quelques semaines. Et je vous parlerai, ça sera une chronique DVD-VOD du Temps des Rêves, un film allemand.
Et puis toi, Manu, tu as vu le film notamment où joue Ben Affleck.
Et oui, Mr. Wolf de Gavin O'Connor, un thriller un peu particulier. Et puis le film coréen présenté à Cannes, Mademoiselle de Park Chan-wook.
Et moi, je vous parlerai d'un film alors qui a attendu 17 ans pour sortir. C'est Bleeder de Nicolas Winding Refn. C'était son deuxième long métrage. Et ce film donnera l'occasion de jouer un blind test sonore. On écoutera 5 extraits de la filmographie du réalisateur danois. Et ce sera le côté jeu de l'émission. Et puis le côté livre, ce sera en toute fin d'émission avec Dark Vador versus Monsieur Spock. C'est Cinérama.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Et on commence avec donc L'Attrape-Rêve. Une jeune journaliste française, interprétée par Mélanie Laurent, rejoint un certain Yvan, dresseur de faucons misanthropes qui vit à Nunavut, dans le nord canadien. Elle est censée l'interviewer, mais en réalité, elle recherche la mère de Yvan, une guérisseuse appelée Nana, qui vit en ermite quelque part dans la forêt. C'est l'occasion pour Yvan de se replonger dans son passé douloureux. 20 ans plus tôt, lorsque sa mère a découvert ses dons de guérisseuse, elle s'est retrouvée confrontée au cancer de son second fils, qu'elle était incapable de soigner. La cellule familiale s'est disloqué suite à ce drame, Yvan n'a plus jamais revu sa mère et il décide donc de partir à sa recherche. Alors bon, déjà, le projet du film sentait un peu le sapin. Je m'explique, le projet était resté une fois fini 2 ans sur les étagères des distributeurs, ce qui n'est souvent pas très bon signe et qui prouvait sans doute que les distributeurs étaient aussi perdus face à cet ovni inclassable que les spectateurs ne le seraient ensuite en salle. Et en effet, la réalisatrice Claudia Llosa jouissait plutôt d'une bonne réputation, hein, ses deux premiers films ayant raflé de nombreuses récompenses sur les festivals. Et son précédent film Fausta ayant même obtenu l'Ours d'Or à Berlin. Mais elle semble ici s'être totalement perdue dans son sujet. De bonnes intentions ne font pas un bon film et de beaux paysages ne rendent pas forcément une quête mystique crédible. N'est pas Iñárritu qui veut, ni Terrence Malick. Et puis, c'est toujours un poil risible et un peu hypocrite hein, lorsqu'un film qui a valu plusieurs millions de dollars et qui est truffé de stars entreprend de parler des bienfaits de la marginalité et de quête spirituelle. Alors l'intrigue est confuse, hein, elle mélange histoire de famille, métaphysique et développement personnel, ce qui fait beaucoup trop pour une heure de film. Le décor, les forêts du Grand Nord canadien sont bien sûr magnifiques, mais du coup, il dévore l'espace du film, il ne laisse que peu de place aux protagonistes pour exister, d'autant que la caméra de Claudia Llosa filme avec beaucoup plus d'amour les paysages que ses acteurs, dont elle ne semble pas trop savoir quoi faire. Et pourtant, la distribution est grandiose, c'est même ce qu'il y a de mieux dans le film. Il y a Cillian Murphy, le héros de 28 jours plus tard, qui est désormais trop rare au cinéma. On a également Una Chaplin, la petite fille de Charlie Chaplin, Mélanie Laurent, donc, et surtout Jennifer Connelly, que l'on n'avait pas revue depuis le naufrage du Noé de Aronofsky. Donc c'est assez dommage qu'on la revoie dans ce film qui est assez raté. Vous pouvez largement passer votre chemin. C'est un film qui ne fera pas date du tout dans l'histoire du cinéma. À moins que vous vouliez faire une sieste devant de beaux paysages pendant 1h30. Et de la belle musique.
Paysage glacé, on précise. Mais avec quand même un misanthrope, éleveur de faucons, c'est
beaucoup
ça.
De misanthropes, beaucoup. Ils le sont tous en fait. Ils sont tous assez solitaires, ils n'aiment pas trop les gens.
Alors on passe du misanthrope
à l'autisme.
Avec le film où joue Ben Affleck.
Avez-vous remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement ?
Oui. Cinérama.
Le monde devient philosophique.
Alors après sa prestation frisant la catastrophe dans Batman versus Superman, du républicain Zack Snyder, qui doit fêter d'ailleurs la victoire de Trump en ce moment, le mal-aimé Ben Affleck revient dans une sorte de variation intéressante de films de super-héros. Après la chauve-souris, il se métamorphose en loup, enfin d'un point de vue métaphorique, incarnant ainsi Christian Wolff, un autiste sociopathe, génie des mathématiques le jour quand il exerce le métier d'expert comptable et redoutable tueur professionnel la nuit, à l'instinct quasi bestial, d'où son pseudo, lorsqu'on lui cherche des noises. Alors par contre, il est résolument peu à l'aise avec les gens, logique pour un autiste.
Votre fils est un jeune homme extraordinaire. Il a des facultés cognitives exceptionnelles. Il a plus en commun avec Einstein ou Mozart qu'avec nous.
Vous aimez les puzzles ? Dites-moi ce que vous voyez. Elle a été prise il y a 3 ans par un agent infiltré.
On retrouve cet homme chaque fois.
Il a été signalé à Téhéran, Tel Aviv et Naples. Ce type risque sa vie à démêler la comptabilité des pires voyous de la planète. Cartel de drogue, marchand d'armes, blanchisseur d'argent, assassin. Qui réchappe à ce genre de clientèle ? Imaginez les secrets qu'il détient.
Traiter avec des gens qui ont des secrets trop encombrants peut te coûter la vie. Si tu prends cette voie, tu peux plus faire marche arrière.
Alors qui est-ce ?
Le comptable.
Genre expert comptable ?
Pas exactement.
Alors ce personnage, hein, Wolf, hein, qui est vraiment intéressant et ambigu, bosse en réalité alors pour des organisations mafieuses et reverse quasiment l'intégralité de ce qu'il gagne à des petites structures dont on l'apprendra plus tard, notamment un centre pour handicapés mentaux. Alors le plus étrange est que Wolf ne se pose aucune question morale. C'est ce qui rend d'ailleurs le film assez passionnant et un peu hors des sentiers battus. Hein. Alors dommage que le scénario, déjà très riche, complexifie autant l'intrigue. Ou alors je dois avoir un problème avec les chiffres et tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à un thriller financier. Hein. Alors pour faire simple, disons que Wolf, qui est dans le collimateur de la brigade anticriminalité du ministère des Finances, accepte pour faire diversion ou profil bas de vérifier les comptes d'une entreprise de robotique, tout ce qu'il y a de plus clean en apparence. Alors en apparence bien sûr, car avec son excès de zèle et sa manie de tout vérifier dans les moindres détails, Wolf finit par déceler un détournement de plusieurs millions de dollars, qui va expliquer en détail afin de rendre crédible son action. Et là, je reconnais, j'ai rien pigé du tout. Mais bon, après tout, on s'en fout. Hein. C'est juste un moyen de vouloir rendre encore plus crédible un script déjà assez compliqué comme ça. Ben, peu importe. Mais sa découverte n'est pas au goût de tout le monde et les meurtres commencent à se multiplier. Alors, à peine sorti de l'Ouest avec son western féminin Jane Got His Gun, Gavin O'Connor enchaîne avec ce curieux film hein, qui brasse les genres avec un certain savoir-faire, surtout dans la première partie, vraiment captivante. Le personnage de Wolf, idéalement donc incarné par Ben Affleck, qui livre sa meilleure performance depuis Gone Girl, parvient à être tour à tour touchant et inquiétant. Alors, victime et bourreau à la fois, Wolf a surmonté son handicap, en partie hein, grâce ou à cause de son père, qui a fait de lui une véritable machine à tuer, doublée d'un intellectuel pathologique. Alors le véritable monstre du film est bien ce père, incapable d'accepter l'autisme de son fils et qui a décidé de lui faire subir un entraînement guerrier pendant plus de 10 ans. Et Wolf a presque des allures de super-héros tourmenté et instable à la Bruce Wayne, ce vers quoi le script tend idéalement. La révélation finale, surprenante certes, mais un peu tirée par les cheveux, offre la possibilité d'une suite dans laquelle Wolf se confronterait à son frère ennemi. L'existence même du super-héros n'a pas de sens, comme le rappelait Shyamalan dans Incassable, s'il ne se confronte pas à un double maléfique. Alors le scénario retors de Mr. Wolf ne l'oublie pas, la mise en scène efficace lors des scènes d'action sombres et violentes s'en tient à sa mission illustrative. Alors au final, une réussite mineure hein, qui doit beaucoup au portrait psychologique de son personnage principal et à la moralité salvatrice de son épilogue. Alors en revanche, c'est un peu dommage, les autres personnages ne sont que des faire-valoir, des silhouettes un peu interchangeables, en dépit de la présence vraiment d'excellents comédiens comme J.K. Simmons qui jouait dans Whiplash, et puis John Lecto, à ce qu'on voit assez rarement sur les écrans et qui était un peu l'acteur fétiche de Brian De Palma.
Merci Manu, donc c'est sur les écrans le nouveau film avec Ben Affleck.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Voilà un film qui aura mis 17 ans pour apparaître sur les écrans français. Et encore rares sont les cinémas à le projeter. Il s'agit du deuxième film de Nicolas Winding Refn après Pusher, soit Bleeder. Bleed veut dire saigner, Bleeder sera donc le seigneur. Quelque chose comme ça, mais qui n'existe, enfin, ça n'existe pas en français. Alors, l'histoire de ce film est une aventure artistique comme juridique. Hein. Bleeder a été présenté à la Mostra de Venise en 99. Alors, jusqu'ici, tout va bien. Mais Kamikaze, la société de production qui s'en occupait, a très vite fait faillite et mise à part en Suède, Norvège et Danemark, pays d'origine du réalisateur, eh bien, le film ne sera pas vu. Alors, autant dire que ceux qui ont assisté aux projections à Venise, eh bien, ont pu se sentir un peu privilégiés. Alors, heureusement, les galères administratives ont souvent une fin et le réalisateur a pu racheter les droits de son propre film. Alors, ouf, mais il aura fallu quand même 17 ans hein, pour qu'il reprenne le chemin des salles. Alors, c'est d'autant plus troublant que la différence de ton, d'image et même de langue comparée aux dernières œuvres du cinéaste danois exilé aux USA, eh bien, est plutôt criante. Il y a un fossé entre l'esthétisme et la distanciation dans Drive, Only God Forgives et de Neon Demon et l'image volontiers sale de Bleeder. Il y a bien quelque chose d'anachronique qui saute aux yeux à regarder ce film du passé. Mais on n'est pas totalement dérouté non plus, parce que pour peu qu'on apprécie le réalisateur danois et qu'on ait vu sa trilogie Pusher, on est là sur un terrain familier. Avec Pusher, Nicolas Winding Refn a fait ce qu'il appelle une récitation de ce qu'il voyait dans les thrillers américains. Et des années après, le réalisateur explique qu'il se prenait pour Scorsese, filmant un monde, celui des malfrats, qu'il fantasmait donc à travers le cinéma. Avec Bleeder, le cinéaste danois s'inspire davantage de Wong Kar-wai et notamment de Chungking Express, au point qu'une affiche se retrouve dans un plan du film. Alors dans Breeders, plongé dans une ambiance années 90 où la cassette VHS régnait encore en maîtresse, nous voyons cinq personnages qui sont présentés en musique, ils sont tous liés les uns aux autres. Il y a Lenny, cinéphile introverti qui travaille dans un vidéoclub. Il y a aussi Léo, futur père de famille, pas du tout à l'aise avec cette idée. Il y a Louise, sa petite amie. Il y a le frère de Louise, type ouvertement raciste et violent. Et il y a enfin Léa, une serveuse dont Lenny, le cinéphile, est amoureux. Ainsi, dès le début du film, eh bien, les personnages sont déterminés par la musique, un parti pris fort comme l'ensemble de la mise en scène, caméra épaule, grand angle, plan serré, fondu non pas au noir mais au rouge. Bleeder est très marqué. Alors, deux inspirations sont venues à Refn, réaliser sa version de Last Exit to Brooklyn d'Hubert Selby Jr. et puiser dans l'énergie de Chungking Express. Alors, on pourra retenir que Last Exit to Brooklyn est décrit par son auteur comme les horreurs d'une vie sans amour. Fermez les guillemets. Alors, l'amour est effectivement un nœud dans Bleeder. Il y a une bande de potes qui se voient pour regarder des films, mais même cette récréation n'est pas forcément légère. On trouve des tensions entre le couple qui va avoir un enfant car Léo se refuse à la paternité. Il y a également des tensions entre Léo et le beau-frère, et puis une histoire d'amour qui pourrait naître entre Lenny et Léa. Alors, Bleeder s'articule avec ces deux extrêmes, une violence latente, car deux des personnages masculins sont dur, mais il y a aussi une sorte de légèreté, la promesse d'une naissance d'un côté et une histoire d'amour qui semble commencer sous nos yeux. Alors à bien y regarder, on devine Drive, qui mélange également dans cette scène fascinante de l'ascenseur, la romance et l'ultra-violence, mais comme souligné plus haut, le style du Danois a bien changé depuis ses premiers films. Ici on navigue entre touches naturalistes, on est placé dans un monde prolétaire et stylisation du propos. On entre dans le vidéoclub avec ses milliers de cassettes comme on entre dans les catacombes parisiennes, avec tous les crânes fixés au mur, il y fait noir et cela semble sans fin. Et puis, entre autres excentricité, c'est là aussi au début du film que Refn fait dire au personnage de Lenny, interprété par un Mads Mikkelsen débutant, une liste de cinéastes. Alors, malgré l'accent, essayez d'en repérer quelques-uns. Fritz Lang, Sergio Leone, Scorsese, Sergio Capucci, George Romero, Lucio Fulci, Sam Peckinpah, Jean Rollin, Jacques Tourneur, Wes Craven, John Carpenter, Jack Hill, Richard Fleischer, Gensel, Werner Herzog, Paul Morrissey, Ed Wood, John Waters, John Suzuki, Stanley Kubrick, Fellini, Hitchcock, Tom Siegel, Todd Browning, David Lynch, Jodorowsky, William Lustig, Doris Wiseman, Nick Meyer, Orson Welles, Ines Zero-Hunter, David Lynch. Marine, tu as entendu David Lynch.
J'ai entendu David Lynch et Orson Welles.
Fulci.
Il y avait Fulci aussi.
Corbucci.
Ça, oui, j'ai entendu des chi, mais...
Il y avait Suzuki, il y avait Kubrick, il y avait Fellini, il y en avait plein d'autres. En fait, là, je pense qu'il y en avait une trentaine. Hein. Voilà, mais on n'a pas tout saisi. Alors, pour la petite histoire, Refn a indiqué qu'à cette époque, Mads Mikkelsen, qu'on vient d'entendre, n'était pas cinéphile du tout. Et leur conversation se résumait à commenter les résultats sportifs. On peut dire que l'acteur a dû faire du chemin depuis. Bleeder est actuellement dans très peu de salles en France. Il est également visible en import DVD avant une sortie très rapide en VOD sur Internet, voilà, après sa petite exploitation dans les salles françaises. Et ça nous donne l'occasion, ce film, cette ressortie, eh bien, de jouer un blind test autour du réalisateur danois. Alors, comme toujours, il suffit d'écouter 5 extraits et on va commencer avec le premier, trouver le titre.
Qui c'était ?
Pourquoi tu veux aller leur péter la gueule ? Hein, cascadeur ? Pourquoi tu veux savoir qui c'est, ces connards ? Hein ? Des mecs qui veulent me foutre sur un coup, mais moi je veux pas, et je leur ai dit. Voilà qui c'est.
Le coup, c'est quoi ?
C'est de braquer un bureau de prêt sur gage.
Pourquoi toi ?
Ces types m'ont protégé en prison, je leur dois du fric. Ça devait être 2000. Puis une fois que j'ai été dehors, ah ben non, c'est 5000. Puis vas-y, donne 10 000. Non, allez, donne 20. C'est bon, combien ça va être demain ?
Tu comptes faire quoi ?
Bonne question. Ils ont dit qu'ils s'en prendraient à Benicio et Irène.
Voilà, bon, c'était facile, hein, parce qu'il y avait quelques indices quand même.
Bah, cascadeur, donc c'est Drive.
C'est ça, c'est Drive. Hein. Film étonnamment interdit aux moins de 12 ans en France, mais au Royaume-Uni, c'était moins de 18, et puis aux États-Unis, c'était 17 ans. 17 ans et accompagné d'un adulte. En tout cas, c'est un des plus gros succès de Winding Refn, avec quasiment 1 500 000 spectateurs en France. Deuxième extrait.
Je me suis toujours un peu pris pour un comique. Mais quand même, 7 ans. C'est long, très long. Je ne vais pas me planter là et comme ça, devant vous, hein, vous dire que la prison, c'est pas le bagne. Non ! Ce serait donner une fausse image de moi et je crois que ça a suffisamment été fait ! Vous ne croyez pas ? Non. Vous voyez, moi j'ai jamais eu l'impression d'être dans une cellule, une cage ou une boîte. Pour moi, c'était une chambre d'hôtel.
Tom Hardy, c'était facile, Manu.
Eh bien, c'était Bronson.
Voilà, film de 2008. Troisième extrait.
Ces gens sont des porcs. Ces disciples du Christ blanc. Des porcs. Un jour, un homme qui avait beaucoup voyagé m'a dit qu'ils mangeaient leur propre Dieu. Mangeait sa chair, buvait son sang. Abominable. Ils nous haïssent. Veulent notre mort. Alors priez les dieux pour qu'ils nous protègent. Nous, nous avons de nombreux dieux. Eux n'ont que celui-là.
Bon, voilà, il y avait aussi des indices.
C'est le guerrier silencieux.
Avec les Vikings et les chrétiens, film de 2009, une toute autre ambiance avec ce quatrième extrait.
Ou bien ils sont jamais chez eux, ou bien ils te paieront demain.
Ouais, on passe notre temps à leur courir derrière 24 heures sur 24. Faut leur rappeler ce qu'ils doivent. Ça me fait penser à un Turc. Tiens, écoute l'histoire. Ce mec avait réussi à enfler Milo de 30 000. Il a fallu que je me déplace. Je suis allé deux ou trois fois pour lui demander la thune. Gentiment. Rien. Obligé d'y aller au couteau. Je l'ai planté dans son genou et j'ai tourné. La rotule est sortie. Je vais te dire, Franck, j'ai envie de changer de boulot, je te jure.
Et voilà, bon, voilà, facile aussi.
Pusher.
Ouais, Pusher. Ça, c'était un extrait du premier film de 96 qui est sorti quand même 10 ans après en France. Hein, voilà. Et dernier extrait de ce blind test.
Et c'est ton vrai nez ? Ouais. Que la vie peut être injuste.
Gigi vient de passer sur le billard. C'est un sujet sensible.
Chirurgie esthétique.
On croirait que c'est un crime à t'entendre. Se faire opérer, c'est de l'entretien corporel. Tu te vois, toi, rester un an sans te brosser les dents? J'ai une adresse à Beverly Hills.
Andrew.
Docteur Andrew.
Elle est folle de ce mec.
Y a de quoi, non? Regarde-moi. La femme bionique, il m'appelle.
C'est un compliment.
Marine, ça a été trouvé, évidemment.
The Neon Demon.
Voilà. Bon, alors en fait, il a fait moins de 10 films, hein, donc c'était assez facile de jouer à ce blind test. Il restait Only God Forgives, et puis Inside Job.
Voilà. Inside Job, ouais.
Voilà. C'est ainsi que s'achève ce blind test, et on retrouve la suite de Cinérama avec les chroniques.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Pour son retour en Corée, après son expérience hollywoodienne, un brin décevante avec Stalker, Park Chan-wook transpose un roman britannique de Sarah Waters, Du bout des doigts, déjà adapté sagement par la BBC au cœur de la Corée des années 30 pendant la colonisation japonaise. Une jeune femme, Suki, est engagée comme servante d'une belle japonaise, Hideko, vivant dans la luxure et surtout recluse dans un immense manoir. Elle est sous l'influence tyrannique d'un oncle aussi sévère que pervers. Sauf que Suki n'est pas une servante à la base, mais une voleuse. Elle est la complice d'un petit escroc qui complote un autre plan pour Hideko, celui de l'épouser, puis s'en débarrasser afin de posséder sa fortune. Alors maintenant, disons pas plus, car l'histoire est beaucoup plus alambiquée, adoptant tour à tour le point de vue des trois personnages principaux, avec comme il se doit des rebondissements et des changements de perspective selon la voix off. Alors Park Chan-wook s'impose définitivement, on va dire, comme un disciple doué de Brian De Palma. La filiation était déjà évidente avec All Boy, qui était une variation ou un détournement du magnifique Obsession. Mademoiselle évoque à plusieurs reprises, c'est assez étrange, passion, tant sur le plan esthétique que narratif. Alors, ce n'est pas une lubie de ma part, hein, puisque De Palma est de toute façon le cinéaste préféré du Coréen. Son thriller exotique et érotique baigne dans une ambiance étrange et décadente, poussant au paroxysme la sophistication visuelle. Au point parfois d'étouffer l'ensemble, transformer son impeccable mécanique en un pur exercice de style de haute voltige, extrêmement brillant, mais parfois un peu vain. Alors les décors rutilants, la lumière splendide, la fluidité du montage et les mouvements d'appareil ingénieux fascinent de bout en bout. Park Chan-wook confirme sa place de plasticien ultra doué, hein, sa mise en scène, à défaut d'être originale, embarque sans difficulté le spectateur dans le fil d'une intrigue complexe, gentiment tordue, qui prend à mi-parcours une direction non pas inattendue mais très troublante. Et on se dit que le Coréen passe un peu à côté d'un grand film d'amour, sensuel et érotique, avec jeu saphique et fétichisme précieux. La passion qui va unir deux personnages, la servante et la riche japonaise, ouvre la voie à un autre film, s'éloignant du thriller en costume pour s'engager vers une œuvre, on va dire, plus secrète, intime, qui aurait pu être bouleversante si le péché mignon du réalisateur ne revenait pas à la charge. En effet, il manque à ce film noir, hein, très clinquant, une dimension humaine, un vertige. Les deux actrices sont magnifiques, hein, découvertes dans Un jour avec, un jour sans. Kim Min-hee incarne à merveille la servante écervelée, tandis que la toute nouvelle, hein, Kim Tae-ri, alors je ne sais pas si on le prononce comme ça, mais a priori, elle est très troublante, hein, jouant non sans ambiguïté sur différents registres. Paradoxalement, leur histoire ne touche que par intermittence. Hein. Chan-wook s'en tient un peu trop à un dispositif illustratif, à un érotisme chic, quasiment géométrique par moments, un peu comme le Kama Sutra, qui est une référence très présente dans le film. Alors, en parfait maniériste, hein, Chan-wook reste un cinéaste de surface, presque décoratif. Il pratique du moins sur Mademoiselle l'art de la tapisserie. Alors, retouché en numérique, hein, ces images sont d'une clarté absolue, sublimant le moindre objet, décor, lissant les traits des personnages. Alors, à ce degré de perfection glaciaire, rappelant par moments les coquetteries d'un Visconti, on finit parfois par être agacé, voire sentir un ennui poli. L'aspect musée-pompier guette ce film, largement sauvé néanmoins par la trivialité du propos, la drôlerie de certaines situations scabreuses et la jouissance d'un scénario malin, plein de faux-semblants et de chausse-trappe. Alors, si l'émotion est un peu l'absent du film, ce jeu de dupes stimulant pour l'esprit et les yeux demeure en l'état l'un des meilleurs films de la saison. Et qui, je pense, gagnera malgré tout en épaisseur à chaque vision. C'est un peu le destin, je dirais, du cinéma maniériste qu'on critique beaucoup à son époque et qui gagne avec le temps par rapport à des films, on va dire, qui ont un contenu fort et qui, formellement, sont parfois dépassés au bout de quelques années. Mmh.
Merci Manu, et ben on va aller dans un autre univers avec toi Marine, et on va parler des rêves encore une fois.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu. Alors c'était sûrement une comédie.
Oui, nous allons parler de rêves et de raves avec donc le temps des rêves de Andreas Dresen. Alors, Danny Rico, Marc, Paul et Pitbull forment une bande d'amis à Leipzig. Ils étaient ados lorsque le mur de Berlin est tombé. Ils ont connu l'utopie socialiste et à présent, en ex-RDA, leur quotidien se résume surtout à boire de la bière, se battre contre des skins et finir souvent au poste. Exaltés par un nouveau futur possible, ils décident de monter une boîte de nuit mais vont évidemment faire se heurter durement leurs aspirations à la réalité et comme on s'en doute, le temps des rêves ne va pas durer longtemps. Alors, ce Trainspotting allemand, comme il est surnommé, est une très bonne surprise, hein, mais ne porte pas vraiment bien son surnom. N'aimant pas du tout Trainspotting, je trouve même assez réducteur de le comparer au film de Danny Boyle, qui fait, selon moi, dans la provocation gratuite. Ici, la drogue n'est pas le centre du film, hein, même s'il en est question. Le film aborde toute une pluralité de sujets qui sont bien plus intéressants, tels que l'amitié, les utopies politiques, le passage à l'âge adulte et la renaissance d'une société. Pas beaucoup de rêves au final dans ce film élaboré en plusieurs séquences qui suivent l'arc narratif assez classique de l'ascension puis de la chute. Le film, en fait, devrait plutôt s'appeler Le temps des désillusions, car il est surtout question des espoirs déçus des jeunesses socialistes dont le conditionnement est très bien montré dans le film, puis des déceptions ensuite de ceux qui deviennent adultes dans une société à laquelle ils ne se sentent pas appartenir. Andreas Dresen, le réalisateur, n'a pas cherché à prodiguer un message universel, cela se sent. L'histoire du temps des rêves est celle qu'il a connue lui-même avec ses amis dans sa jeunesse. Le film n'a pas vocation à être plus que sa vérité à lui, et c'est déjà pas mal. Tout cela ayant un doux et dur parfum de réalisme. De même, il ne faut pas s'attendre à trouver là un film sur la musique ou sur la nuit berlinoise. Déjà, le film se passe à Leipzig, donc c'est réglé. Ensuite, même si la bande-son techno est omniprésente, voilà, le film n'a pas vocation à vraiment parler de l'évolution en fait, de la musique techno. Et en plus, la musique est souvent volontairement anachronique, comme par exemple ce son de Jeff Mills qui date en fait des années 2000. Temps des rêves, c'est une réussite, donc hein, vraiment tant sur le fond que sur la forme. C'est un film qui n'a pas eu une grande carrière en salle, c'est vraiment dommage. C'est l'occasion de le revoir en VOD, en DVD, s'il y a encore des gens qui achètent des DVD, ou en Blu-ray. Voilà, en tout cas, vraiment, je le recommande chaleureusement.
Elle est méprisante. C'est comme ça. Allez, on en termine.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Dark Vador versus Monsieur Spock. Non, ce n'est pas le prochain projet du studio Disney, mais un livre écrit par deux spécialistes de la science-fiction, Olivier Cotte et Jeanne A. Débat. Alors, on connaît Dark Vador.
Si seulement tu connaissais le pouvoir du côté obscur, Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qui est arrivé à ton père.
Oh, il m'en a dit assez. Il a dit que vous l'avez tué.
Non, je suis ton père.
Eh oui, ça met des frissons, comme j'entends en technique. Et donc voilà, donc ça forcément, Dark Vador, on connaît bien, mais on connaît aussi...
Attaché scientifique Spock, je viens rendre compte, commandant.
Asseyez-vous.
Spock, vous n'avez pas changé d'un poil. Toujours aussi charmant et sociable avec les autres.
Vous non plus, docteur. Vous avez gardé une prédilection pour les formes d'humour à contre-temps.
Je vous en prie, messieurs. Aux dernières nouvelles, vous étiez sur Vulcain.
Sur Vulcain, j'ai pénétré dans le champ de la conscience, émanant d'une source plus puissante que toutes celles que j'avais rencontrées. Des schémas de pensée parfaitement bien organisés. Je suis persuadé que c'est l'intrus qui en est à l'origine et que ces schémas sont susceptibles d'apporter une réponse à mes questions.
Dites donc, c'est une sacrée chance pour vous que nous soyons sur le point de l'intercepter.
Alors, ce sont des personnages emblématiques, hein, des deux plus grandes sagas de science-fiction. Le livre Dark Vador versus Monsieur Spock vous propose de les départager et de vous dévoiler si vous êtes plutôt Klingon ou Ewoks, Luke ou Riker, Han Solo ou Captain Kirk. Voilà. Et dans chacune des pages, eh bien, les auteurs explorent un aspect des deux sagas et vous demandent de trancher donc entre Dark Vador ou Spock, selon que vous êtes sensible ou non aux arguments développés. Alors... Dans les pages, on retrouve une thématique, notamment voilà, étoile noire versus cube tactique Borg, constat critique versus utopie, la force versus la téléportation, Faucon Millennium versus Enterprise, J.J. Abrams, fossoyeur ou créateur, hein, parce qu'il a été le réalisateur eh bien, d'au moins deux films de la saga, Et puis, en plus de 224 pages, on fait le tour de l'univers des deux séries. Et puis, à la fin, eh bien, quand vous avez tout bien coché, il suffit de compter les points et vous saurez ainsi si vous êtes plutôt Star Wars ou Star Trek. Voilà. Ça coûte seulement 12,90 €. C'est écrit avec un ton amusé, mais plutôt bien documenté. Voilà, Dark Vador versus Monsieur Spock. C'est aux éditions Duno.
Alors, méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui ?
Il va pas contrôler qui est qui.
Quoi, qui est qui ?
Bah quoi, qui est qui, quoi ?
Eh bien, qu'y a-t-il ?
Auriez-vous oublié que nous partons ?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
Eh bien, la semaine prochaine, nous serons encore réunis dans ce studio pour parler cinéma. Mais
notamment
de quoi ?
Du client.
Et de Maman à tort.
Eh ben voilà, vous avez déjà des idées. À la semaine prochaine.